autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous poser des questions métaphysiques aujourd'hui sur le temps, la matière, le vide ou la réalité. De quoi le vide est-il plein ? Qu'est-ce que le réel ? Tout est-il vraiment relatif ? Le passé existe-t-il quelque part ? Qui est légitime à parler du temps ? Les philosophes ou les physiciens ? Et si les deux avaient des choses à se dire et à nous dire ? Et s'il y avait là matière à conversation, ou plutôt matière à contredire ? Pour reprendre le titre du dernier essai d'Étienne Klein, notre invité, physicien et philosophe qui cherche à nous donner matière à penser autour de la question « Quel lien entre physique et philosophie ?» Bienvenue. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes physicien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, auteur de nombreux ouvrages sur le temps, la matière, mais aussi Einstein ou Majorana. Dans votre dernier essai de philo-physique ou de physico-philosophie, je ne sais pas comment il faut dire, paru aux éditions de l'Observatoire, Matière à contredire, vous convoquez Étienne Klein à la fois les plus grands philosophes, mais aussi les plus éminents physiciens, pour nous donner quoi ? Matière à penser autrement avec et entre ces deux disciplines ?
Ou alors c'est en fait plus simple que ça, c'est-à-dire ces deux disciplines qui m'intéressent depuis longtemps, qui sont distinctes, je cherche pas du tout à les fusionner, à les rassembler, ni même à les rapprocher. Les physiciens ont une certaine façon d'interroger le réel, le monde. Les philosophes se posent d'autres questions que la simple question de la réalité, par exemple. Et donc, c'est des modes de questionnement qui sont assez différents et qui se sont organisés au cours de l'histoire de façon très distincte. Simplement, il me semble qu'il faut parfois les mettre ensemble ou les regarder simultanément lorsqu'on a affaire à des questions que les philosophes ont traitées ou tenté de résoudre, mais aussi qui correspondent à des résultats que les physiciens obtiennent grâce à leurs expériences ou grâce à leurs théories et qui viennent percuter certaines réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques.
Et vous, c'est intéressant parlé, de percuter, oui.
Voilà, vous avez parlé du temps ou du vide, par exemple, dans votre introduction.
C'est vous qui le faites, dans votre livre.
Oui, mais c'est deux très bons exemples. Le mot vide est un mot très ancien. On le trouve sous la plume des pré-socratiques, donc il y a 5 siècles avant Jésus-Christ. Ils parlent du vide. Les philosophes parlent du vide, les physiciens parlent du vide. Est-ce qu'ils parlent de la même chose ?
Le vide des physiciens, il est plus plein que le vide des philosophes.
Alors, si on prend le vide de la physique moderne, qui est quantique, en effet, il est plein de toutes sortes de choses, dont on parlera peut-être. Mais il y a une première question, c'est quand on parle du vide, est-ce que les physiciens et les philosophes parlent de la même chose ? Si la réponse est oui, est-ce qu'ils disent de la même chose ? Est-ce qu'ils en disent la même chose ? Et si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot ? Voilà, et donc c'est un souci plutôt de cohérence dans la vie des idées que le désir de rapprocher des disciplines qui ont leur propre histoire et leur propre modalité.
Un désir de cohérence, aussi un désir d'employer les bons mots pour dire les choses, on va y venir. Et puis aussi un désir aujourd'hui, vous dites que l'époque est plutôt au mur qu'au pont, un désir de faire plutôt des ponts. Que les murs retiennent.
Oui, parce que tout le monde parle aujourd'hui, hein, tout le monde s'exprime, mais est-ce qu'on se parle vraiment ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'organiser de véritables débats plutôt que des échanges de commentaires ou d'opinions qui classent assez vite les opinions qui sont faites par ailleurs dans des catégories un peu fermées ? Et je pense qu'on a besoin de réinstaurer des lieux ou des occasions où des débats assez profonds puissent être menés entre personnalités qui viennent de disciplines différentes.
Et quand vous dites débat, vous citez aussi le philosophe Bachelard, penser c'est dire non ou c'est contredire. Pourquoi penser ce serait contredire ?
Ben, souvent, on dit que la pensée réclame l'esprit critique. Ce qui est vrai, mais l'esprit critique, c'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon et il y a le mauvais. Le mauvais, c'est celui qui critique tout ce qui est dit par réflexe, sans vraiment analyser les arguments et en se contentant en général d'opinionner. Mais je pense que le vrai esprit critique, c'est celui qu'on adresse à sa propre pensée. C'est-à-dire, je pense cela, mais est-ce que je le pense vraiment ? Est-ce que j'ai raison de le penser ? Est-ce que cet argument n'est pas plutôt une croyance ou une opinion ? Est-ce que je peux l'étayer par des arguments auxquels je n'ai pas pensé ? Et qu'est-ce que je réponds lorsqu'on m'oppose un argument qui contredit ce que je pense ? Donc le bon esprit critique, à mon avis, commence par un examen critique de sa propre pensée qu'ensuite on peut utiliser pour critiquer la pensée des autres.
Et dans ce cas-là, ce serait quoi, le philosophe qui critiquerait le physicien ou le physicien qui critiquerait le philosophe?
Dans les deux sens, par exemple, le philosophe peut dire au physicien « vous parlez du temps, mais en fait vous le rapportez à l'espace ». Vous ne pensez pas le temps en lui-même. Et puis le physicien peut dire au philosophe « Vous croyez avoir résolu la question du temps grâce à tel ou tel grand penseur qui a élaboré un système très éloquent, très convaincant sur le temps, mais vous avez oublié de considérer ce résultat de physique qui montre que peut-être c'est pas aussi simple. Et la relativité, et Einstein, est-ce que vous en tenez compte ?» Par exemple, il y a une occasion très simple de voir comment les choses pourraient se passer. J'ai appris cette semaine qu'en 2019, le sujet qui sera donné à l'agrégation de philosophie, donc en 2019, l'année prochaine, c'est le temps. Et la question va être, quelle liste de livres on va donner à lire aux candidats ?
Que des philosophes ?
Est-ce que ce ne sont que des livres de philosophes ? Ouais. Saint-Augustin, Aristote, Kant, Merleau-Ponty, Husserl, Bergson, Heidegger ? Ou est-ce qu'on va y ajouter aussi des livres d'Einstein ? Voilà une question intéressante. Est-ce qu'on a le droit de cumuler les sources de savoir pour voir si elles se contredisent, si elles se complètent, si elles s'étayent ou si au contraire, elles obligent à repenser notre façon de dire ce que nous savons ?
Repenser notre façon de dire ce que nous savons. Vous aimez aussi, Étienne Klein, jouer avec les mots. Nos auditeurs se souviennent peut-être de vos anagrammes renversantes avec Jacques Périssalco. Alors dans ce titre, matière à contredire, je me doute qu'il doit se cacher quelques anagrammes justement.
Mais figurez-vous que j'ai trouvé le titre il y a presque un an. J'ai cherché des anagrammes longuement, j'ai rien trouvé. Et puis quand le livre est sorti, il y a quelques semaines, le soir même, Jacques Périssalco m'a envoyé « Récréation à méditer », qui est l'anagramme du titre, et un peu plus tard, un autre ami a trouvé « Rédaction téméraire ».
Les deux vous vont, j'imagine.
Les deux me plaisent beaucoup, mais j'ai été incapable de les trouver tout seul, ce qui a fait ma honte pour une bonne soirée.
Eh bien, on va pas vous faire la honte, là, mais on va tout de même vous faire écouter l'éclairage d'un autre physicien et poète qui, lui aussi, aime bien s'amuser avec les mots et chercher matière à contredire. Il s'appelle Michel Cassé et il aime aussi jouer avec le vide, les mots et la pensée. On l'écoute.
Alors, cher Étienne, je voudrais savoir si matière à penser ou à dépenser, si penser, dépenser, mouvoir et émouvoir, ou si décrire et écrire sont des tendances qui peuvent être retournées aussi facilement que tu le dis. C'est plutôt dire et médire que je voulais dire.
Comment retourner, je ne sais pas, une réponse à ce que vient de dire Michel Cassé?
Je reconnais bien là la prose, mais même la poésie de mon ami Michel Cassé.
Les physiciens sont philosophes ou poètes, souvent.
Pas tous, mais ceux qui le sont ont un discours en général très riche, très étayé et très beau à entendre. Alors, je reprendrai sur ce qu'il dit sur penser et dépenser. Moi, je pense que penser et dépenser, c'est avec un tiré entre les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire que penser, c'est d'une certaine façon toujours cesser de penser ce qu'on a pensé. Et donc c'est dépenser sa pensée pour la compléter ou la transformer ou pour ouvrir de nouveaux chemins de pensée.
Et c'est ça qui vous intéresse, c'est ouvrir de nouveaux chemins de pensée. Que ce soit par les anagrammes, par la physique, par la philo, enfin, il y a quand même ça.
Oui, c'est ça, parce que philosophie, on est bien d'accord que c'est toujours aller au-delà de ce qu'on sait. On ne philosophe pas simplement à partir de nos connaissances. Il y a toutes sortes de questions que nous nous posons, le sens de la vie, la mort, auxquelles il faut tenter de trouver des réponses, ou du moins un sens, sans s'appuyer sur des connaissances. Personne ne sait ce qu'est la mort exactement. Donc on pense au-delà de ce qu'on sait. Mais il y a quand même des connaissances, et on ne doit pas les laisser de côté dans notre façon de penser d'autres questions que celles qui sont traitées par les connaissances. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser le savoir de côté lorsqu'on pratique l'activité de penser. C'est un peu ça le message que j'essaie de défendre.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les philosophes, certains d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, ont peut-être laissé de côté ce savoir en marche, ces connaissances, notamment apportées par la physique.
Mais pas que, je
pense
que les physiciens lisent peu de philosophes, et les philosophes ont peur des équations en général. Il y a quand même un système d'organisation à l'école, à l'université, qui segmente les disciplines. Et on peut être philosophe sans bien connaître même des mathématiques élémentaires. Et on peut être physicien sans avoir lu Bergson. Donc, non, je dirais que là, en l'occurrence, il s'agit pas encore une fois de donner des cours particuliers de physique aux philosophes ou l'inverse. Il s'agit, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, de formuler les résultats de la science, en l'occurrence de la physique, d'une façon dont les philosophes puissent s'emparer pour éventuellement étayer leurs discours ou les transformer.
Alors par exemple, puisque vous avez commencé en parlant du temps, qui serait non pas le plus à même d'en parler, mais comment un physicien pourrait donner du grain à moudre aux philosophes qui réfléchissent sur le temps?
Je veux donner un exemple. Souvent, alors les philosophes, mais pas que, même dans le langage courant, on confond le temps et le changement. On dit que quand rien ne change, le temps s'arrête, par exemple. Or, est-ce que la physique cautionne cette assimilation, cet amalgame? La réponse, c'est non. La physique distingue deux sortes d'irréversibilité. Il y a celle du temps même. Le temps en passant produit des instants qui ne se répètent jamais. Tout instant qui advient est un instant inédit, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas retrouver dans votre futur un instant que vous avez déjà connu dans votre passé.
Ce qu'on appelle le cours du temps. Ça, c'est le cours du temps.
Et il est irréversible. Et puis, dans ce temps qui est toujours irréversible, il y a des phénomènes qui eux-mêmes peuvent être irréversibles ou bien pas. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. Par exemple, si vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Et une fois que c'est fait, quoi. Vous pouvez pas revenir à l'état initial. Et donc, il y a deux formes d'irréversibilité qui sont confondues par le langage, parfois identifiées l'une à l'autre par la philosophie, que la physique oblige à distinguer. Il y a un peintre que je cite dans le livre, qui est Roman Opalka, un peintre franco-polonais qui est mort il y a quelques années, et qui toute sa vie a produit une œuvre, pendant quatre décennies, qui illustre cette séparation. Il a peint sur des tableaux noirs la suite des nombres entiers. 1, 2, 3, qui peignait avec de la peinture blanche. Et quand il avait terminé un tableau, qui lui prenait plusieurs semaines, il se prenait en photo, toujours dans la même position, avec le même éclairage, la même chemise, etc. Et donc, la suite des nombres entiers qu'il peignait, illustrait le cours du temps, c'est-à-dire tous les nombres sont différents, mais ils sont tous construits en ajoutant une unité au nombre précédent. Donc ça, c'est le cours du temps. Les instants sont tous différents, mais ont tous le même statut. Et puis son visage, qui, à mesure que le temps passe, se ride, les cheveux blanchissent, illustre le devenir, c'est-à-dire ce qui advient de lui au cours du temps.
Il y a donc plusieurs temps, et il y a aussi les mots pour le dire. Vous dites aussi, Étienne Quin, l'éthique commence dans la façon de dire ce que l'on sait. C'est important aussi de passer en mots, ce qui est très compliqué, le langage des physiciens, voire même aussi le langage des philosophes.
Alors je vais appuyer ce que vous dites en insistant sur le fait que ce travail de traduction, il est impossible. On ne peut pas traduire ce que disent les équations dans le langage ordinaire. Parce que le langage ordinaire ne dit pas déjà ce que dit la physique. Donc il faut faire un travail de critique de la langue, il faut même inventer une sorte de langue étrangère au sein même de la langue pour dire la nouveauté des messages qui viennent de la physique. Donc ce travail est impossible, mais il faut quand même tenter sans cesse de le faire. Sinon, alors je crains que le discours s'autonomise complètement par rapport à la connaissance, et ce serait quand même embêtant.
Qu'on ne sache pas tout ce que l'on sait, justement, qu'on ne puisse pas le faire passer et qu'on ne sache pas tout ce que l'on sait.
Vous parliez d'éthique, l'éthique en général, on la sollicite quand il s'agit de discuter des applications de la science. Est-ce qu'on construit des centrales nucléaires? Est-ce qu'on fait des nanosciences? Est-ce qu'on fait de la biologie synthétique? Et quid des données personnelles avec le big data? Enfin, c'est des questions qui sont relatives aux applications. Mais je pense que l'éthique, elle démarre en amont de cela, dans la façon de dire correctement ce que nous avons. Si on le dit mal, alors ce que nous savons sera mal pensé, et étant mal pensé pourrait conduire à ce que s'enquistent dans la culture des idées fausses ou qui contredisent les théories qu'on prétend traduire.
Ce qui peut être le cas aujourd'hui, donc attention autour de la question, quel lien entre physique et philosophie et pourquoi ça nous donne, on le comprend, matière à penser, matière à contredire, Étienne Quin. Je propose de nous frotter maintenant à deux univers musicaux différents, celui du Sénégalais Aliou Nouad avec le rappeur français Oxmo Puccino. L'album s'appelle African Fast Food et le morceau How Many Miles, question d'espace et de temps peut-être.
Prends l'eau. Quand on voit que l'affiche et son nom en groupe, ha, bosse ton instrument et dans 20 ans tu sauras qui c'est Vincent Segal. Écrire des lignes et des millions, choisir un argument lorsqu'un refrain s'égare. On le sirote comme de l'alcool fort, sans les jouer toutes, juste les bonnes notes que tu chaloupes. C'est excellence, c'est voyage dans les confins de l'excellence.
Yeah. parce qu'au-delà de ce qu'on aime, sans pareil.
How Many Miles sur RFI, extrait de l'album African Fast Food, duo improbable et plutôt réussi entre Oxmo Puccino, le rappeur, et Aliou Nouad, musicien sénégalais. Ça vous accroche,
Étienne Klein? Ça donne envie de danser, bien que j'ai très mal aux jambes parce que j'ai fait trop de vélo ce matin, mais malgré ça, ça donne envie de danser.
Donc physicien, philosophe, montagnard aussi, je crois, et donc vélo.
Oui, mais quand on est montagnard à Paris, et ben, il faut faire du vélo, voilà.
Autour de la question, non pas quel lien entre la montagne et le vélo, mais quel lien entre physique et philosophie, nous continuons de nous interroger sur et avec ces deux matières à penser, ces deux matières à contredire en votre compagnie, donc Étienne Klein, avec un nouvel éclairage sur la matière et le vide, c'est celui de l'astrophysicien Roland Lehoucq.
C'est vrai que matière à contredire, la matière est effectivement pleine d'esprit de contradiction, puisqu'elle est, dit-on, pleine de vide, et en même temps, on ne peut pas passer à travers. Donc ça, c'est quand même incroyable. La matière solide, bien sûr, on ne peut pas passer à travers. Donc je suis tout à fait d'accord, la matière est pleine de contradictions et tout à fait pénible pour nous autres humains.
Une petite réaction sur la matière, le vide, qui n'est pas rien.
C'est, en effet, la matière solide est impénétrable. Et il a été très difficile de démontrer à partir des principes fondamentaux de la physique quantique, notamment un principe qui s'appelle le principe d'exclusion de Pauli, en quoi il peut expliquer le fait que la matière est impénétrable alors qu'elle est faite de vide.
De quoi le vide est-il plein, vous demandez-vous, dans cet ouvrage Matière à contredire, c'est un chapitre entier.
Oui, parce que le vide, c'est aussi un objet qu'on a du mal à définir. On a tendance à dire que le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Sauf que si on enlève tout, il n'y a plus rien. Il ne reste que le néant.
Alors
le vide, si le vide est quelque chose, c'est qu'il n'est pas le néant. Et donc le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc on tourne en rond, et pour définir le vide, il faut une théorie physique qui dise ce qui existe, ce qu'on peut enlever. Et une fois qu'on a défini ces choses, on peut définir le vide correspondant à telle ou telle théorie. Par exemple, le vide de la mécanique de Newton, qu'on apprend à l'école, le vide de la mécanique de Newton, c'est ce qui reste quand on a enlevé tous les objets physiques. Donc il reste l'espace vide, et le temps. Mais en mécanique quantique, qui est la physique qu'on a mis sur pied dans les années 1930 pour expliquer le comportement assez bizarre de la matière, bah le vide, c'est pas la même chose qu'en physique classique. Il reste dedans, dans l'espace, des champs, des particules qu'on appelle virtuelles, qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment, mais qui peuvent se manifester si on leur donne l'énergie qui leur manque. Et donc c'est un vide bouillonnant, constitué de particules un peu fatiguées et qui sont en dehors de leur couche de masse, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas assez d'énergie pour être pleinement incarnées.
Un vide bouillonnant constitué de particules un peu fatiguées. Alors, j'écoute le physicien que vous êtes, aussi philosophe. Là, je me dis, c'est le poète que j'écoute. Enfin,
bon, c'est pas le poète, parce que regardez, moi j'ai retrouvé une lettre de Blaise Pascal, donc au XVIIe siècle. Mmh. Il a écrit une lettre au Père Noël. Alors, c'est pas le Père Noël des sapins, c'est le révérend Père Noël, qui était le recteur de la Compagnie de Jésus, c'était un jésuite, qui avait écrit un livre étonnant qui s'intitule « La plénitude du vide ». Et Blaise Pascal essaie de le convaincre de l'existence du vide.
Que le vide est plein.
Que le vide existe, surtout.
Ah, que le vide existe.
Et il termine sa lettre avec une phrase absolument incroyable. Il dit « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». Donc le vide est intermédiaire entre le néant, c'est-à-dire l'absence de toute chose, et puis la matière telle qu'elle se donne à nous. Or, le vide dont parle Blaise Pascal, sans vouloir rétro-projeter dans le passé des choses qu'on a apprises depuis, c'est exactement le vide quantique.
C'est une intuition,
c'est une
Pascal,
sorte de ouais, c'est un coup de génie. Mmh. Le vide quantique, c'est une sorte de prologue de la matière. C'est-à-dire, la matière est là, mais potentiellement seulement. Mais elle est intégralement là. Les champs sont là, ils ne sont pas forcément activés, mais ils sont potentiellement disponibles. Et quand on fait une collision de particules, par exemple, comme on a fait au lâcher pour découvrir le boson de Higgs,
à Genève,
on a réchauffé le vide, on a déposé dans le vide l'énergie qui manque à des particules fatiguées, qui ont absorbé cette énergie, qui sont devenues réelles. Devenant réelles, elles sont sorties du vide, on a pu les détecter, et parmi elles, il y avait le boson de Higgs.
L'infiniment petit boson de Higgs.
Oui, il a été sorti du vide quantique. C'est ça qui fait que cette expérience est aussi une expérience de philosophie, puisque on interroge des notions qui travaillent l'esprit des philosophes depuis très longtemps.
Et c'est aussi une expérience de philosophie. Moi, je me demande, vous étiez d'abord attiré par la physique ou par la philosophie? Parce que j'ai l'impression que l'un mène à l'autre aujourd'hui, ou on peut dire ça comme ça? L'un pourrait, devrait mener à l'autre?
Quand on est adolescent, on essaie à la fois de comprendre le monde tel qu'il se donne à nous, donc c'est plutôt la physique qui peut fournir des réponses. Mmh. Et puis on se pose des questions sur le sens de la vie, et c'est la philosophie qui le fait. Moi, j'ai jamais vu vraiment la séparation. En tout cas, j'ai toujours lu des livres de philosophie ou de littérature, y compris pendant mes études scientifiques. Et je me souviens même d'un professeur en classe préparatoire de mathématiques qui m'avait dit « Klein, faut cesser de lire des livres, ça sert à rien ». Alors ça sert à rien pour le concours, sans doute, quoique. Mais je trouvais que c'était une phrase d'une grande violence.
Ça sert
parce que quand on est à,
lire,
quand on a 19 ans, on a envie de lire des choses, on a besoin de lire des choses.
Et vous avez aussi besoin, vous l'avez dit au début, matière à contradiction, c'est-à-dire contredire, percuter, plutôt esprit rebelle, venir un peu...
Mon premier livre, il s'appelait « Conversation avec le Sphinx ». Le sous-titre, c'était « Les paradoxes en physique ». C'était il y a 25 ans. Et vous vous rendez compte, je me suis rendu compte que mon sujet dans le livre « Matière à contredire », c'était aussi le paradoxe, qui était le sujet de mon premier livre, mais j'avais pas vu le rapprochement.
La boucle est bouclée. Dans les contradictions.
Dans l'idée de la contradiction, il y a quand même le germe de la vie intellectuelle. C'est-à-dire que ce qui nous oblige à remettre en cause nos idées, c'est l'avènement d'un paradoxe qui vient les contredire ou les problématiser. Enfin, je pense que sans paradoxe, la pensée stagne et se résume à des croyances.
Alors à propos, non pas de croyances, mais plutôt de paradoxes, je sais que vous êtes bien plus Rolling Stones que Beatles, donc on vous offre évidemment Étienne
Klein.
Je ne
veux pas déclencher de guerre, j'aime les deux, mais plus les Stones.
Bah en tout cas, à chaque fois que vous venez, on ne résiste pas à vous proposer un
gentil,
autre morceau des Stones.
C'est très gentil de votre
cette
part.
Fois-ci, à vous mettre entre les deux oreilles, extrait de leur dernier album Blue and Lonesome, la reprise de Commit a Crime. Sur RFI, reprise d'un vieux blues, Étienne Klein,
c'est un collage. Non, c'est un disque Blue and Lonesome qui reprend 12 titres de blues, de chanteurs essentiellement américains de la fin des années 50. Il faut écouter les versions originales qui sont sublimes et les Stones qui les reprennent à leur façon, parfois, enfin souvent pour le meilleur.
Étienne Klein, fan des Stones sur RFI et auteur de Matière à contredire. On va en profiter pour vous refaire un petit peu le portrait façon peut-être questionnaire de Proust, écrivain qui lui aussi a eu quelques intuitions à propos de la physique et de la physique quantique. Alors en musique, on l'a compris, vous êtes quoi, plus électrique qu'acoustique?
Oui, plus électrique qu'acoustique, clairement.
Votre matière préférée, c'est pas la matière à contredire, mais ce serait laquelle, votre matière préférée, Étienne Klein?
L'acier d'un piolet.
Pardon ?
L'acier d'un piolet.
Ah, pour gravir la montagne.
Ouais, c'est rassurant et c'est très utile.
Votre moment préféré dans la journée, vous qui parlez du temps ?
C'est quand je rentre d'un footing, et que un jour de congé, et que j'ai du temps pour écrire le matin.
Le matin ?
Courir le matin et ensuite écrire jusqu'à l'heure du déjeuner, voire après.
Votre espace préféré ?
J'ai un bureau qui est installé sur une mezzanine, avec une vue assez lointaine de l'immeuble d'en face, qui n'est pas tout près, parce qu'il y a un square qui est au milieu de la rue.
Donc il y a des arbres entre les deux.
Et c'est un endroit où je me sens bien, oui.
Votre mot préféré ?
Mon mot préféré, je pense, c'est éternité.
Il n'y a pas d'anagramme là-dedans.
Si, c'est l'anagramme d'étreinte.
Ah, éternité et étreinte. Votre mystère préféré ?
Le mystère préféré, alors c'est peut-être simplement un problème, hein. Pas forcément un mystère.
Une question. Hein.
En tant que mystère, c'est l'origine de l'univers, ça c'est vraiment un mystère, je pense qu'on n'aura jamais la solution, entre guillemets. Mais il y a un problème que je trouve excitant, c'est le problème de la matière noire. Voilà, est-ce qu'il y a de la matière noire ? De quoi est-elle faite ? Ou bien est-ce qu'on doit modifier les lois de la gravitation qui nous font penser qu'il y en a une ? Donc, il y a un problème. Est-ce que la solution, ça consiste à changer les lois de la physique ? Ou est-ce que ça consiste à dire qu'il y a dans le monde des choses qu'on ne connaît pas, qui, si elles existaient, rétabliraient l'accord entre les calculs et l'observation de la dynamique des galaxies ?
Vous avez les yeux qui brillent, hein, quand vous dites ça.
Ben oui, parce que j'ose espérer que la solution sera trouvée avant ma mort.
Et votre couleur préférée, du coup, serait quoi, le noir ou...
Non, c'est le violet. Je devrais dire le rouge, qui est la couleur de RFI. Mais comme j'officie un peu à France Culture, je vais dire violet.
Et vous êtes plutôt infiniment petit ou infiniment grand ?
Les deux sont liés, vous savez.
Eh oui.
Donc je ne choisirai pas.
À l'heure où la physique devient quantique et où l'infiniment petit boson nous donne des leçons philosophiques, matière à contredire, c'est le titre de votre dernier essai, Étienne Klein, essai physico-philosophique ou philo-physique, qu'est-ce qu'il vaut mieux dire ?
Bon, je ne sais pas, on est libre. C'est philo-physique, j'aime beaucoup, parce que ça établit une sorte de parité entre les deux disciplines. Et bien, il y a un tiret qui montre qu'on ne les fusionne pas, mais qu'on les... On les regarde toutes les deux en les mettant vis-à-vis, sans les hiérarchiser. Parce que le problème, c'est de séparer les choses. Dès qu'on sépare des choses, dès qu'on dit que A est différent de B, ça pose la question de la hiérarchie, de l'ordre. Est-ce que A est plus grand que B, etc. En fait, non, il y a A, c'est la physique, il y a B, c'est la philosophie. Elles sont au même niveau. Qu'est-ce qu'elles se disent ? Et pour ça, il faut se mettre entre, et puis les respecter toutes les deux, et voir les contributions de chacune d'elles à propos de questions qu'on se pose.
C'est pas « ou », c'est « et ».
Oui, c'est une sorte de complémentarité occasionnelle qui, à mon avis, est très féconde et qui justifie qu'on abatte certaines cloisons.
Autour de la question « quel lien entre physique et philosophie ? Pourquoi ces deux disciplines ont tant de choses à se dire et à nous dire ?» En particulier sur la réalité. Je vous propose de retrouver et d'écouter votre maître à penser, Étienne Klein, le physicien Bernard d'Espagna, sur la question de la réalité quand la physique devient quantique. On écoute Bernard d'Espagna.
La physique classique, on pouvait l'interpréter comme décrivant une réalité tout à fait indépendante de nous et la décrivant telle qu'elle est en soi, si vous voulez, pour employer ce mot un peu philosophique, mais telle qu'elle est, quoi. On pouvait penser, du temps de la physique classique triomphante, qu'elle surmontait vraiment le problème des apparences, elle levait le voile des apparences et elle nous montrait par derrière la réalité telle qu'elle est vraiment. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la physique quantique, parce que la physique classique maintenant n'est plus qu'un modèle, c'est un très bon modèle dans beaucoup de domaines, il faut s'en servir, c'est très utile, mais ce n'est qu'un modèle, elle ne peut pas prétendre à l'universalité, la mécanique quantique est la seule qui puisse prétendre à l'universalité. Et cette mécanique quantique, eh bien, on ne peut pas, on n'arrive pas à l'interpréter comme décrivant les choses elles-mêmes. Elle décrit essentiellement ce que nous observerons si nous faisons telle et telle chose. Elle décrit, autrement dit, l'expérience humaine que nous avons de la réalité, mais pas la réalité elle-même.
Bernard d'Espagna sur la réalité, il n'y a rien à changer, Étienne Klein.
Non, c'est très émouvant de l'entendre. Bernard d'Espagna, il est mort le 1er décembre 2015, à 93 ou 14 ans, je crois. Et je l'avais rencontré en 92, on a écrit un livre ensemble, et il a été mon maître en éducation quantique. Et quand j'étais étudiant, sans le connaître, j'avais lu son livre « À la recherche du réel », qui est paru en 1976. Et il était un des rares à avoir bien prédit ce que donneraient les expériences que ferait plus tard un physicien français qui s'appelle Alain Aspect, avec son équipe, sur la non-séparabilité quantique. Et il était le seul à avoir eu l'intuition que la réalité ne pouvait pas être autrement que non séparable. Et il en a déduit tout ce qu'il a raconté dans cette courte intervention, à savoir que la physique quantique est une révolution obligatoire dans notre façon de penser les critères de la réalité.
C'est-à-dire que la physique quantique, c'est vraiment une révolution, devrait révolutionner nos modes de pensée. Alors, ce n'est pas notre réalité quotidienne, ce n'est pas la manière dont nous appréhendons le monde, mais dans l'infiniment petit, ce qu'amène la physique quantique, c'est comme si nous, finalement, on n'avait pas compris à quel point ça bouleversait tout.
Voilà, c'est une révolution de la physique, colossale. D'ailleurs, c'est la dernière grande révolution. Depuis, on a fait énormément de découvertes, mais il n'y a pas eu de révolution conceptuelle. Et c'est une révolution philosophique dans le sens où elle produit ce que j'appelle dans le livre des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire que les critères de la réalité, qu'avaient définis parfois certains philosophes, ne sont plus tenables parce que des expériences ont démontré que les particules n'ont pas ces propriétés. On a tort d'imaginer qu'une particule emporte toujours avec elle dans l'espace, selon sa trajectoire, des propriétés qu'elle possède en propre. Il y a des cas où les particules sont intriquées, et donc elles partagent, quelle que soit la distance qui les sépare, des propriétés communes. Et c'est très difficile à penser, mais c'est obligatoire de le penser quand même.
Obligatoire de penser, par exemple, alors évidemment tout le monde cite Schrödinger et son chat, et vous le citez vous-même, au sujet duquel nous parvient à la fois, dites-vous, d'excellentes nouvelles et d'autres bien plus dramatiques. il faut pouvoir penser à la fois que le chat de Schrödinger est mort et vivant, quelque chose comme ça est possible alors que c'est pas possible.
Ce que dit la physique quantique, c'est pas qu'il est mort et vivant, elle dit il est vivant plus mort. Et c'est le plus qui est alors pour le coup un mystère. Que veut dire le plus ? Quand une particule est dans un état qu'on appelle superposé, c'est-à-dire qu'il est la somme de deux états contradictoires, comment penser cette juxtaposition
de deux états contradictoires ?
Voilà. C'est tout le problème de l'interprétation de la mécanique quantique. C'est un problème qui a connu des développements très nombreux. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce débat qui était philosophique au départ, il a notamment opposé Niels Bohr et Albert Einstein dans des échanges absolument passionnants, mais c'était un débat philosophique pour eux. Et en fait, par la suite, on a pu trouver des développements qui ont montré que ce débat philosophique pouvait être en partie tranché par des expériences de laboratoire. Ça, c'est quand même incroyable. Un débat philosophique est tranché par une expérience. Et donc, il y a des discours sur la réalité. C'est un peu ce que disait Bernard d'Espagnat tout à l'heure. Il y a des discours sur la réalité qui ne sont plus défendables.
Et vous citez aussi Alexandre Coiré, physicien et philosophe des sciences. La physique consiste à expliquer le réel par l'impossible.
Alors oui, c'est une définition que j'aime beaucoup, parce qu'elle s'applique à la physique quantique, évidemment, mais pas seulement. Déjà la physique classique. La première loi de la physique classique, moderne, disons, c'est celle que Galilée énonce en 1604. Il fait quand même quelque chose d'incroyable, Galilée. On est en 1604, à cette époque, je vous rappelle, on ne sait pas faire le vide. On ne sait même pas si le vide existe. C'est l'objet de discussions très, très, très violentes, parfois, entre philosophes, notamment entre Blaise Pascal et le Père Noël dont je parlais tout à l'heure. Les philosophes ne sont pas d'accord sur l'existence du vide. Et Galilée dit: tous les corps tombent exactement à la même vitesse, quelle que soit leur masse, dans le vide. Et donc il énonce une loi dont les effets directs n'ont été vus par personne. Parce que lorsque vous laissez tomber des objets de masse différente dans l'atmosphère, ils ne tombent pas à la même vitesse. Et donc je trouve ça emblématique que la première loi de la physique soit une loi qui contredise l'observation.
Donc on
et
est
qui
vraiment...
oblige ensuite à réinterpréter l'observation pour expliquer comment une loi qui la contredit l'explique quand même.
Alors matière à contradiction, d'autant plus, comment dire, à la fois essentielle, importante et en même temps compliquée, complexe, dans notre monde aujourd'hui, où il y a tant de matière à contredire. Comment faire passer, justement, des notions aussi complexes, des contradictions intrinsèques, des mystères, des choses qu'on ne comprend pas? Comment faire passer ça aujourd'hui, Étienne Klein?
C'est un plaisir de participer à votre émission, parce que vous avez du temps. On a le temps d'expliquer, peut-être pas assez, mais on peut quand même développer des arguments. Mais dans beaucoup de situations, on n'a pas le temps de développer des arguments. Et donc je pense que la transmission dont vous parlez, la transmission des connaissances scientifiques, est la première victime de la crise de la patience dans laquelle nous sommes. Il faut tout dire rapidement. Du coup, on parle en donnant l'impression qu'on parle avec une certaine autorité, mais sans avoir le temps de démontrer les arguments par lesquels on arrive à dire ce qu'on dit. Autrement dit, je pense que nous n'avons plus le temps d'expliquer comment, dans l'histoire des idées, certaines connaissances sont devenues des connaissances. Et du coup, ces connaissances sont traitées un peu comme des croyances. Par exemple, je sais, vous savez, tout le monde sait que la Terre est ronde. Mais qui sait comment on a su qu'elle était ronde dans l'histoire des idées? Qui l'a démontré? Avec quels arguments? Quels étaient les arguments de ceux qui pensaient que la Terre était plate? Comment se fait-il que ceux qui pensaient qu'elle était ronde ont fini par gagner? Et ils ont gagné bien avant qu'on voit qu'elle était ronde par des photos prises depuis l'espace. Les premières photos de la Terre depuis l'espace, c'est 1956. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est l'année où a été fondée l'Association des Amis de la Terre plate.
C'est-à-dire que les deux vont en même temps, aller en parallèle. C'est-à-dire l'augmentation du savoir, des connaissances, et en même temps, un retour, un arrêt, une crispation.
Mais je pense que plutôt que de se moquer des gens qui disent que la Terre est plate, on devrait nous-mêmes travailler davantage notre connaissance des arguments qui ont fait qu'on a su qu'elle était ronde.
Pour pouvoir défendre
les éclipses de la Lune, par exemple, et tout ce qu'on a, pour mieux défendre. Parce que les gens qui disent qu'elle est plate ont plein d'arguments, hein.
Et c'est eux qui vont gagner, sinon. Merci d'être notre empêcheur de penser en rond, Étienne Klein. Je vous propose d'écouter une autre voix, on va dire forte et rebelle, c'est celle de la diva Oumou Sangaré, en playlist du mois sur RFI, extrait de son dernier album, Yere Faga. Vous allez voir, ça déménage. Yere Faga Nyani, Jongani Yere Faga Nyani. Sangaré sur RFI, Étienne Klein, je vous ai vu remuer un peu votre corps.
Ben oui, un petit peu, c'est engagé comme on dit, ça envoie du bois.
Ça envoie, exactement, avec toujours de nouvelles matières à contredire. Titre de l'essai, de votre essai, Étienne Klein, autour de la question « Quel lien entre physique et philosophie ?» Je vous propose un dernier éclairage en forme de question, soulevé par un très brillant et jeune physicien, lauréat du Next Einstein Forum que j'ai rencontré en mars dernier à Kigali. Jonathan Essolé est originaire de RDC, aujourd'hui enseignant-chercheur à la Northwestern University aux États-Unis. Il a une question pour vous, Étienne Klein.
Je travaille dans les mathématiques de la théorie des cordes et il est très clair que pour la physique des hautes énergies, il y a un grand décalage entre ce qu'on peut étudier théoriquement et le nombre d'années, si c'est même possible, pour faire des expériences. Alors, à quel moment est-ce que la physique théorique arrête d'être de la physique et devient de la métaphysique ou de la philosophie? On a célébré longtemps le moment où les physiciens pouvaient clairement ignorer le point de vue des philosophes. en se disant que toutes les questions peuvent se résoudre au laboratoire. Et on est dans une période intermédiaire où il n'y a pas de laboratoire. Donc on a des théories, on essaye de faire sens de ces théories-là, mais on ne sait pas les tester. Donc à quel moment est-ce qu'on doit arrêter d'appeler ça de la physique ?
Que vous vous répondre à la question malicieusement intelligente de Jonathan Essolé.
Oui, c'est une question très intelligente, c'est-à-dire très difficile. Parce qu'en effet, la physique, c'est pas la même chose que la métaphysique. Et que le domaine qu'il étudie, la théorie des supercordes, est une théorie qui, pour être testée, réclamerait des énergies bien plus grandes que celles qu'on peut réaliser en laboratoire. Par exemple, au LHC, au CERN, on fait des collisions de protons. On fait des collisions de protons qui ont l'énergie, en gros, d'un moustique en vol. Or, pour tester la théorie des cordes, au moment du mur de Planck, il faudrait donner aux particules l'énergie d'un TGV en circulation.
Oui, donc, d'accord, il y a des ordres de grandeur. Qui échelle, oui.
Et donc, le risque, et c'est celui qui l'exprime très très bien, c'est le risque que la physique devienne une métaphysique mathématique. C'est-à-dire qu'on a des théories mathématiques, mais on ne sait pas lesquelles sont les bonnes parce qu'on n'a pas de données qui indique quelle est la théorie qu'on doit privilégier
et
par rapport à d'autres.
Et on n'aura jamais les grands instruments nécessaires à la...
Oui, mais il ne faut pas désespérer du futur.
Prenez l'exemple. Il ne faut pas désespérer du futur.
Non, parce que regardez, Einstein a prédit les ondes gravitationnelles en 1916. Et je sais que vous l'avez traité dans votre émission, on a détecté les ondes gravitationnelles pour la première fois en 2016, donc un siècle après. Et donc, il peut y avoir des phénomènes très fins que prévoient les théories, qui sont très difficiles à détecter, mais on finit par y arriver quand la technologie peut suivre.
Vous dites, Étienne Klein, il ne faut pas désespérer du futur. La semaine prochaine, à la Cité des Sciences, il y aura une semaine de débat autour de la question « Le progrès a-t-il un avenir ?» Ce sont des questions qui vous intéressent aussi beaucoup. Comment, justement, ne pas désespérer du futur ? Enfin, est-ce que aussi, entre physique, philosophie, dans ces matières à contrer, est-ce qu'il y a aussi des germes ne pas désespérer du futur ?
Absolument. Moi, je pense que... Pas d'abord, ça a pu être mesuré, le mot progrès disparaît des discours publics. Il est remplacé par le mot innovation, qui est très bien, mais moi j'ai rien contre l'innovation, mais on fait comme si l'innovation était synonyme de progrès. Or, quand on compare les rhétoriques dans lesquelles on insère le mot innovation, on constate qu'elles ne sont pas les mêmes des rhétoriques dans lesquelles on insérait le mot progrès. Je le dis brièvement. L'innovation, elle est justifiée en disant il y a toutes sortes de défis qui se posent à nous, il y a des crises, etc., notamment en Europe, et sans l'innovation, nous ne pourrons pas relever ces défis. Autrement dit, il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. Et c'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation. On part du présent et on dit ça va pas, il faut corriger. Alors que
ça donne pas tellement envie, ça.
Oui, exactement. C'est en gros si vous n'innovez pas, vous mourrez. Alors que la rhétorique du progrès, c'est une rhétorique qui s'appuie non pas sur l'état critique du présent, mais sur une certaine idée du futur. On s'appuie non pas sur un temps corrupteur qui abîme les choses, on s'appuie sur un temps constructeur, qui est complice de notre liberté. Et si nous travaillons, alors nous pouvons faire advenir ce futur que nous avons configuré à l'avance et que nous désirons.
Mais justement, aujourd'hui, on n'arrive plus à configurer le futur.
Mais plutôt que de liquider l'idée de progrès, je pense qu'il faut la retravailler, c'est-à-dire soumettre l'idée de progrès à elle-même. Croire au progrès, c'est faire progresser l'idée de progrès. Et le XXe siècle, notamment, nous a appris beaucoup de choses fausses qu'avaient cru les philosophes des Lumières. Par exemple, il n'y a pas d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Il y a eu un progrès scientifique peut engendrer un progrès technologique, qui va engendrer un progrès matériel peut-être, mais peut-être pas un progrès moral.
Pas un progrès humain.
Donc ça marche pas, c'est pas si simple. Et donc il faut faire un travail critique sur l'idée de progrès, plutôt que de la liquider pour la remplacer par autre chose. Et je pense que certaines nouvelles nous viennent du futur. Pensez par exemple à l'article signé par 15 000 chercheurs au mois d'octobre dernier, montrant la crise environnementale liée à la biodiversité, liée au changement climatique. Donc les nouvelles qui nous viennent de la science sont mauvaises. Et donc nous devons faire l'effort de penser le futur en tenant compte de ce que nous savons. C'est-à-dire sans utopie, sans imaginer des mondes impossibles. Il faut tenir compte de ce que nous savons pour configurer un futur désirable. Et c'est ça qui est difficile. Parce que les philosophes du progrès disaient « bon, on va faire une image du futur qui soit crédible et attractive ». Le problème d'aujourd'hui, c'est que quand c'est crédible, c'est pas attractif.
Et quand c'est attractif, c'est pas crédible.
Donc il faut retravailler ces notions, fabriquer des projets de société qui tiennent compte à la fois de ce que nous savons et de ce que nous voulons.
de ce que nous savons et de ce que nous voulons. Et dans ce que nous savons, on l'a bien compris, Tenka, il faut comprendre, déjà savoir déjà ce que nous savons, parce qu'on a l'impression que ce savoir, ces connaissances, nous on reçoit des chercheurs au cours de toutes ces émissions qui nous rapportent un savoir et des connaissances fabuleuses, mais on a l'impression que ça ne se distille pas beaucoup dans la société, qu'on en est, on n'est pas tellement au courant de tout ce qu'on a appris, compris, et des questions que ça soulève, des gouffres que ça soulève aussi.
Mais vous avez une émission qui essaie de, quand même de combler ce gouffre, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui s'engagent, peut-être qu'il faut revoir nos formes de communication de la science, peut-être qu'on ne sait pas s'y prendre, peut-être que la vulgarisation qui a quand même été pratiquée, moi depuis que je travaille, j'ai l'impression que l'effort de vulgarisation ne cesse de croître. On pourrait, parce que quand j'étais vraiment plus jeune...
Mais vous utilisez bien les mots, vulgarisation n'est peut-être pas un très joli mot, on s'en fiche.
On s'en fiche, il s'agit de transmettre les connaissances, on l'appelle comme on veut, il s'agit de transmettre des connaissances à des gens qui peuvent aussi nous apprendre des connaissances. Enfin, c'est un jeu où tout le monde peut gagner. On s'y est peut-être mal pris, peut-être que la vulgarisation est une sorte d'échec, mais si c'est le cas, plutôt que de l'abandonner, il faut peut-être retravailler ces modalités. Il y a des youtubeurs, par exemple, qui font un travail que je trouve remarquable et qui s'adressent à des jeunes qui peut-être n'ont pas envie de lire de livres, mais grâce à certaines vidéos, ils en poussent certains à lire des livres et réalise une sorte de chaînon manquant que certains adolescents connaissent et qui les empêche de connaître la science par les livres.
Donc donner matière à penser, donner du grain à moudre, vous êtes optimiste ou pessimiste, Étienne Klein ?
Je suis combatif, moi je suis engagé, comme la chanteuse qu'on a entendue tout à l'heure. L'engagement, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de s'appuyer sur de l'optimisme, simplement sur un tempérament.
Merci infiniment, Étienne Klein, d'avoir fait escale dans notre studio, d'avoir posé votre vélo.
Merci à vous.
Que vous allez reprendre ensuite, je crois.
Ah non, je rentre en métro.
Pour partager matière à contredire, donc c'est le titre de votre dernier essai, publié aux éditions de l'Observatoire.